Élection du bureau du Congrès vendredi, c'est le début d'une nouvelle semaine politique avec la suite des élections provinciales. Vous retrouverez la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Un catamaran coule près du récif ce matin, victime d'un incendie accidentel. Il n'y a pas de blessés. Être informé pour bien choisir son parcours professionnel et construire son projet d'avenir, le lycée Blaise Pascal à Nouméa organise jusqu'à mercredi la 11e édition des journées des formations et des métiers. La métropole face aux incendies, l'un d'entre eux dans les Pyrénées-Orientales a contraint à l'évacuation de 10 000 personnes de leur domicile. Et puis un voyage qui va faire couler de l'encre. Emmanuel Macron doit se rendre en Syrie à la fin de la semaine. Il sera le premier chef d'État à se rendre sur place depuis 2024 et la prise de pouvoir de l'ancien djihadiste Ahmad al-Sharih. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et avant de développer tous ces titres, cette nouvelle qui nous attriste profondément, RRB est en deuil. Nous avons en effet appris le décès de Bruno Rebel à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. Bruno a longtemps été un pilier de RRB. Arrivé à la radio en 1996, il était le monsieur musique, programmation musicale et présentation d'émissions de référence. On se souvient notamment de Music News, d'Il était une fois et de beaucoup d'autres. Il a aussi présenté la rubrique Science et il a été l'animateur de référence de la plupart des jeux de Radio Rythme Bleu, dont le totem qu'il avait initié et mis en œuvre. Bruno était un passionné de radio, une passion qui s'était emparée de lui dès le lancement des radios libres en métropole dans les années 80. Après avoir collaboré à Fun Radio, il travaillera ensuite pour la télévision, d'abord dans les équipes de Jean-Pierre Foucault, puis celle de Marc-Olivier Fogiel. Il avait ensuite rejoint la Nouvelle-Calédonie où il a trouvé toute sa place à RRB tout en continuant de pratiquer avec des groupes différents sa passion pour la musique. C'était un joueur de guitare et de basse reconnu. Son talent, sa gentillesse, son dévouement resteront autant de souvenirs qui nous font chaud au cœur. Et son courage face à la maladie et la manière dont il en parlait a forcé l'admiration de chacun de nous. Au revoir Bruno, toute l'équipe de Radio Rythme Bleu est particulièrement triste aujourd'hui et nous adressons toute notre affection ainsi que nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches dont nous partageons la peine. Comme tous les lundis, nous ouvrons ce journal par l'actualité sportive que nous développerons dans le Mac des Sports à la fin de ce journal. Michael Gineski nous fera un point évidemment sur la Coupe du Monde de football et ce gros coup de tonnerre ce matin, le Brésil éliminé.
Oui, le mondial qui réserve décidément bien des surprises en huitième de finale et le Brésil qui n'est décidément plus ce qu'il était. La Seleção est sorti par la petite porte, battu par les Vikings norvégiens d'Haaland, 2-1. Je rappelle qu'hier, la France a évité le piège du Paraguay au terme d'un match difficile, 1-0. La route des Bleus passera encore par le Maroc, déjà croisé dans le dernier carré du Mondial il y a 4 ans. Cette fois, Mbappé et ses coéquipiers feront face aux Marocains en quart de finale.
Et puis c'était ce week-end le départ de la grande boucle, le Tour de France cycliste.
C'est parti pour la 113e édition du Tour de France. Les favoris ont déjà répondu présent. Après les deux premières étapes, on retrouve le Danois Jonas Vingegaard avec le maillot jaune, juste devant le Slovène Tadej Pogacar. Le duel est lancé d'entrée de jeu. Parti ce week-end de Barcelone, le peloton arrivera ce soir sur les routes de métropole.
Et puis dans l'actualité sportive en Calédonie, on reviendra sur les résultats du week-end et nous parlerons aussi de taekwondo.
Avec un rendez-vous pour la discipline, le week-end prochain à Paita, le trophée Kwangbong Sik, ce sera samedi pour réunir tous les pratiquants à l'Arène du Sud, tous les clubs. Pascal Chaliot, l'organisateur, sera notre invité pour présenter ce tournoi où la discipline espère attirer un large public.
Le Mac des Sports est donc à retrouver dès la fin de ce journal. Nous sommes donc au cœur d'une semaine très politique avec l'élection vendredi du président et du bureau du Congrès. C'est évidemment la suite des élections provinciales et l'on retrouve tout de suite, comme chaque lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Ces élections provinciales devaient permettre un renouvellement, une clarification et une légitimation. Et depuis lundi, chacun décortique les résultats, les ausculte, les détails et tente de faire parler les chiffres, voire de les tordre. Chacun y va de son analyse, de son commentaire, de son décryptage, à tel point que l'on s'y perd. Et pourtant, les choses sont assez simples et traduisent, comme à chaque élection désormais, une triple fracture politique, ethnique et géographique. Le Sud reste très largement favorable au maintien de la Calédonie dans la France. Le Nord et les îles restent très majoritairement indépendantistes. Et la seule expression centriste, celle de l'éveil océanien, est, qu'on le veuille ou non, essentiellement communautaire. Mais si elle pèse au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en ayant le pouvoir de faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre camp, elle ne bouleverse pas véritablement la confrontation binaire entre indépendantistes et partisans de la France. Cela veut dire que malgré les accords de Matignon et de Nouméa, malgré toutes les tentatives de partage et de rééquilibrage, malgré les initiatives économiques et sociales, le rapport de force reste le même. les convictions des uns et des autres n'évoluent pas. À ce titre, les tentatives de troisième voie que l'on connaît depuis des années ne font que troubler le jeu. Le centre n'est qu'un miroir aux alouettes. Encore une fois, le nini n'existe pas, même si le temps d'une campagne électorale, ses promoteurs font croire qu'il peut exister un chemin entre l'indépendance et le maintien dans la France. Et au final, on ne sait pas où classer les électeurs qui ont porté leur voix sur ces listes centristes, ce qui rend impossible, malgré les diverses tentatives, toute projection sur la progression de l'un ou l'autre camp. On relèvera à ce titre le rôle pervers joué par Calédonie Ensemble, qui s'est emparé en 2004 d'un électorat partisan de la France pour l'amener progressivement à l'acceptation du mirage d'une indépendance avec partenariat ou d'un État associé. Mais Calédonie Ensemble, c'est fini. L'ex-leader Maximo en fait lui-même le constat en écrivant que ces élections auront sonné le glas institutionnel de Calédonie Ensemble après 22 ans d'existence. Une fois de plus, les électeurs ont tranché et au moins désormais les choses sont claires. Il y a bien deux blocs qui se font face. Il faut en faire le constat et l'assumer. L'autre constat incontestable, c'est que le bloc, les loyalistes, le rassemblement, sort renforcé de ce scrutin, même si certains commentateurs tentent de relativiser sa victoire. Son score est sans appel dans la province sud, qui représente, et ce n'est pas anodin, les trois quarts de la population calédonienne. Sa majorité absolue est exceptionnelle à la province sud, et cela lui donnera forcément un rôle moteur au Congrès et au gouvernement. À l'inverse, le bloc indépendantiste n'en est pas un, tant il est fissuré, voire fracturé, et cela fait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est la conséquence du 13 mai, doublée de l'effet Bougival, auquel s'ajoute la composante autochtoniste qui s'affirme dans les îles. Et puis autre constat, dans la province nord à la fin, c'est Paul Néoutine qui gagne. Qu'il arrive en tête ou non, en nombre de sièges, c'est lui qui décroche le fauteuil de président. Et cela fait 27 ans que ça dure. Pascal Savoie peut s'indigner, tempêter, protester ou affirmer que c'est trop injuste. C'est comme ça. Et il faut dire que l'argument de la tête de liste UCF-LNKS, qui réclame le respect du verdict des urnes, a plutôt fait sourire. Que n'a-t-il appliqué ce principe au troisième référendum et aux trois fois non ?
Et comme chaque semaine, vous retrouvez cette chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir sur notre site internet rrb.nc. Vous pouvez aussi la réécouter juste après notre flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le groupe Agissons Ensemble pour le Nord, qui occupe 3 sièges sur 22, a-t-il eu raison, selon vous, de permettre la réélection de Paul Néoutine à la présidence de la province Nord ? Si vous pensez qu'il a eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h39, la première pause de ce journal, avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie, et notamment ce bateau qui a pris feu et qui a coulé au large de Nouméa ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
En association avec le SIVM Sud, la mairie de Boulou-Paris vous invite à célébrer tous ensemble la fête nationale.
Samedi 11 juillet, de 11h à 15h sur la place de la mairie, venez déguster les plats de nos régions au Festival de la Gastronomie.
Lundi 13 juillet, rendez-vous à 17h30 devant la mairie pour la retraite au flambeau, suivie de 18h à 20h par le bal des pompiers au centre de secours de Boulou-Paris. La soirée s'achèvera par une séance de ciné plein air.
Bienvenue à Boulou-Paris, bienvenue dans l'Ouest.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est un gros panache de fumée visible depuis Nouméa. Un bateau a pris feu ce matin, un peu après 8 heures, et le plaisancier a donné l'alerte, Nicolas Legrand.
Oui, fort heureusement, pas de victimes à déplorer. Le skipper était descendu sur le récif Sèche-Croissant, proche de l'île aux Maîtres, lorsqu'il a constaté que son bateau prenait feu. Il a tout de suite appelé le COS en composant le 16, le numéro d'urgence en mer. Un important dispositif a été déployé sur zone. Deux priorités pour les sauveteurs en mer, mettre en sécurité le skipper et lutter contre l'incendie de ce catamaran de 12 mètres. La suite, c'est Théa Blanchard, la directrice adjointe du COSNC, qui la raconte.
Il a essayé de remonter à bord pour maîtriser l'incendie, mais le feu s'est propagé très rapidement. Donc il a quitté le navire à bord de son annexe et a informé le COS de la situation. Donc le COS a tout de suite déclenché un message « mets des relais » pour aller secourir la personne. Et en parallèle de ça, des moyens ont été engagés pour la lutte contre l'incendie. Plusieurs navires sur zone ont répondu à l'appel. Et assez rapidement, on a pu mettre en sécurité le skipper, qui a été secouru par le navire des gardes nature de la province sud.
La vedette SNSM, mais aussi des marins-pompiers et un remorqueur de la base navale, ainsi qu'un semi-rigide de l'escouade de réserve côtière ont été engagés. Une opération périlleuse en raison du nombre de matériaux inflammables à bord, et notamment des carburants et du gaz.
La deuxième priorité, c'était de lutter contre l'incendie. Et au moment où les moyens de lutte contre l'incendie sont arrivés sur zone, malheureusement, l'embrasement était tellement avancé que le navire a sombré vers 9h30. L'opération recherche et sauvetage est terminée et c'est le bureau de l'action de l'État en mer qui est en charge de la suite qui concerne donc la lutte contre la pollution. Et puis, donc un peu plus tard, des plongeurs iront sur zone pour localiser précisément cette épave pour voir si elle peut être un danger à la navigation et un avis urgent au navigateur sera diffusé.
Et il s'agit, selon les premiers éléments, d'un feu d'origine accidentelle qui aurait pu venir des batteries, par exemple.
Et puis une activité soutenue pour la police ce week-end à Nouméa. 32 personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de violence, notamment intrafamiliales. Des faits souvent sur fond d'alcool. 86 personnes ont été placées en cellule de dégrisement durant le week-end. Week-end qui avait notamment commencé par un refus d'obtempérer en centre-ville de Nouméa vendredi soir. Un pick-up blanc a été pris en charge et intercepté dans le secteur de Montravel. Le chauffeur a commis plusieurs infractions alors que deux enfants de 2 et 8 ans se trouvaient à bord. Il sera poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, collision, conduite en état d'ivresse et défaut d'assurance. L'État déploie le dispositif FR Alerte sur le territoire. Il s'agit d'un dispositif qui permet d'alerter la population sur des risques naturels ou de troubles à l'ordre public en faisant sonner les téléphones portables. La directrice de cabinet du Haut-Commissaire Anaïs Aït Mansour était notre invitée ce matin à 7h30 pour présenter ce dispositif FR Alerte.
FR Alerte, c'est un dispositif d'alerte à la population en cas de gestion de crise afin de leur donner des conseils pour leur sécurité et pour les mettre à l'abri. On peut choisir une zone sur le territoire pour envoyer un message sur l'ensemble des téléphones portables de cette zone, quel que soit l'opérateur, qu'ils aient du réseau ou qu'ils n'en aient pas. Tous les téléphones portables, on n'a pas besoin de télécharger une application. Soit on est connecté à la 4G, 5G et dans ce cas, on reçoit une notification avec une sonnerie très spécifique qui n'est pas la même sonnerie que d'habitude. Des portables qui sont dits à touche, des anciens modèles, vous recevrez quand même un SMS. C'est ça vraiment l'intérêt de ce dispositif qui est très précieux pour toucher un maximum la population et donner des consignes en fonction du type de risque, que ce soit un cyclone, un incendie ou une manifestation. On peut donner des consignes beaucoup plus précises.
À partir de demain, une série de tests va être effectuée en Nouvelle-Calédonie avant un déploiement effectif dans les prochaines semaines. En 2025, des premiers tests avaient été effectués mais n'avaient pas été concluants. Les équipes techniques ont donc travaillé toute l'année pour permettre ce déploiement.
3 jours, on a décidé de partir de petits quartiers pour aller jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Donc demain à 9h, on va faire une campagne de test où tous les portables vont sonner à Nouville, à partir du pont et sur toute la presqu'île. Mercredi, ce sera pour Koné et jeudi, ce sera pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Chaque jour, ce sera à partir de 9h et les téléphones commenceront à sonner. Il sera marqué exercice et ne faites rien. Normalement, après la période de test de cette semaine, on va pouvoir faire un retour d'expérience et voir quelles ont été éventuellement les petites erreurs. Et l'idée, c'est vraiment à partir de septembre, le dispositif est actif. Nous, ce qu'on en regarde aussi en perspective, c'est quand même la saison cyclonique de l'année prochaine et la saison des feux de forêt de l'année prochaine, afin voilà, d'avoir un outil qui nous permette de protéger la population en leur donnant les bonnes consignes.
La Nouvelle-Calédonie était le seul endroit du territoire national qui n'avait pas déployé FR Alerte. Les messages pourront être déclenchés par l'État ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction des compétences. En bref, le Betty Show est au carénage carénage. Le navire de la Sud-Île a été positionné cette nuit sur la cale de halage de Nouville et les opérations de carénage et de maintenance ont pu débuter dès aujourd'hui. Sa remise à l'eau est prévue pour le 22 juillet, d'abord pour une phase de test en mer, avant une reprise de service avec des passagers, annoncée le 5 août prochain. Et puis au chapitre pratique, des perturbations temporaires sur les services Elia prévues jusqu'à mercredi. Deux opérations de maintenance sur l'ensemble de la Calédonie sont programmées pour améliorer la qualité des services télécom, informe l'OPT. Dès 21h ce soir et jusqu'à demain 5h, le suivi de consommation et les recharges seront indisponibles depuis le 1088. L'application Elia NC reste active. La seconde intervention prévue demain de 23h au lendemain mercredi 6h du matin entraînera des perturbations sur la téléphonie, l'internet mobile et la téléphonie fixe. Le suivi conso et les recharges sur l'application Elia sur le 1088 et des recharges par SMS seront indisponibles. Notez que les appels d'urgence restent inaccessibles. Notez que les appels d'urgence restent accessibles. Venons-en à l'ouverture ce matin de la 11e édition des journées des formations et des métiers au lycée Blaise Pascal à Nouméa. 90 intervenants sont présents jusqu'à mercredi pour aider les élèves et les étudiants à définir leur futur parcours professionnel. Léana Colombo.
Oui, entreprises du secteur public et privé, établissements de formation, lycées et universités, tous se sont réunis au sein de l'établissement pour accompagner les élèves et les étudiants dans la construction de leur parcours professionnel et de leur projet d'avenir. Un événement organisé en grande partie par les étudiants de BTS SAM, support à l'action managériale. Pascal Chartier pilote l'équipe organisatrice de ces JFM du lycée Blaise Pascal.
On fait monter en compétences les étudiants de BTS pour qu'ils sachent organiser un événement, toutes les compétences relationnelles, organisationnelles, mais aussi, s'informer puisqu'ils participent aussi à la fois à la présentation de leur BTS, mais aussi ils s'informent pour leur projet d'avenir, de recherche d'emploi ou de poursuite d'études, parce que dans ces journées des formations et des métiers, c'est à la fois les métiers, c'est aussi toutes les formations quasiment existantes sur le territoire, c'est aussi les parcours d'orientation et les parcours de formation qui peuvent exister. Donc on essaie de donner le plus large panel possible et avec des temps d'intervention qui sont limités pour faciliter les échanges avec les professionnels du secteur, aussi bien formation que métier.
Une aide précieuse pour ces 500 élèves et étudiants qui ne savent pas forcément vers quoi se diriger après avoir obtenu le baccalauréat.
C'est bien enrichissant pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire après le bac. Ça ouvre de nouvelles portes et on découvre aussi plusieurs formations qu'on ne savait pas forcément avant. Donc je trouve ça bien pour les lycéens.
Moi je suis en BTS Management Commercial Opérationnel, donc je suis orientée vers le commerce. Ce matin j'ai assisté au chargé de marketing et de data. Là après je vais assister à des formations qui vont être très centrées sur le marketing et sur aussi le marketing international.
Il y a plusieurs formations qui sont quand même super intéressantes. Elles sont bien pour orienter les lycéens et avoir un avenir en eux, enfin voir un peu ce qu'ils peuvent faire et surtout les intervenants, ils expliquent bien et tout.
La 11e édition de ces journées des formations et des métiers sont organisées au lycée Blaise Pascal jusqu'à mercredi.
À 11h49, une nouvelle pause. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Parole de bénévole, c'est avec la BNC, la banque qui soutient les héros du quotidien. Associations, sportifs, entrepreneurs, patentés, particuliers, étudiants, qui que vous soyez, découvrez Parole de bénévole tous les mardis à 11h et 16h avec la BNC.
Le jeudi du centre-ville dédié aux communes du Nord arrive sur la place des Cocotiers le jeudi 9 juillet de 8h à 18h.
Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique.
Les exposants vous réservent de beaux partages et des saveurs authentiques.
Infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole avec Jean-François Baudin.
Et après la canicule, les incendies. Une trentaine d'incendies est en cours, dont 6 sont jugés comme critiques et 3 qui ne sont toujours pas fixés. C'est dans les Pyrénées-Orientales que la situation est la plus critique actuellement. Le village de L'Isle-sur-Tête a été évacué. Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile.
Et on nous a fait évacuer très très vite parce que c'était genre en une minute, il a fallu partir de la maison parce que le feu gagnait.
On a dû partir, on avait plein de cendres dans la maison, la piscine c'est pareil. Très inquiète, ouais, parce que quand même une maison c'est quand même toute une vie. On a tous les souvenirs dedans. On espère retrouver notre maison demain, quoi.
Cet incendie à Lisle-sur-Tête a aussi fait 2 blessés graves, un pompier et un homme d'une 50aine d'années. Ils sont en urgence absolue. 16 départements restent en alerte orange, feu de forêt. L'actualité politique marquée par le premier grand meeting de campagne d'Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027. 5000 personnes étaient réunies à l'Adidas Arena de Paris pour écouter le maire du Havre qui entame donc officiellement sa course à l'Élysée. Il a choisi « Croire en nous » comme slogan de campagne. Il veut en effet la bâtir sur l'optimisme et il oppose cette idée à ses deux adversaires désignés, le Rassemblement National et la France Insoumise.
Le Rassemblement National va nous dire que tout est de la faute des étrangers, de l'Europe, des riches, des fainéants, des villes qui méprisent la campagne, des élites qui ne comprennent plus le peuple. La France Insoumise, de son côté, veut conquérir le pouvoir en jetant du sel sur nos plaies, en faisant le choix de la division communautaire, en flirtant souvent avec l'antisémitisme le plus rance, en nourrissant à dessein la haine du flic, la haine du riche.
Édouard Philippe a révélé quelques éléments de son programme. Il souhaite réformer l'école et la justice et entend s'attaquer à l'équilibre des régimes de retraite. De son côté, Jean-Luc Mélenchon lance un ultimatum aux autres partis de gauche. Il les appelle à se rallier à sa candidature pour la présidentielle et il leur donne même un délai avant le mois de novembre. C'est ce mois que LFI rendra public son programme complet. Et puis c'est une visite qui risque de faire parler. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendra en Syrie à la fin de la semaine. Il sera le premier chef d'État à se rendre sur place depuis 2024 et la prise de pouvoir en Syrie de l'ancien djihadiste Ahmad al-Sharré, Romy Azoulay pour Europe 1.
C'est un déplacement à forte portée symbolique. Aucun président français ne s'est rendu en Syrie depuis Nicolas Sarkozy en 2009. Les relations avaient été rompues après la répression du printemps arabe par le pouvoir de Bachar al-Assad. Emmanuel Macron avait ouvert la voie à un rapprochement. En mai 2025, il recevait à l'Élysée Ahmad al-Sharré, ancien commandant djihadiste. Le chef de l'État ne sera pas seul à Damas. Il sera accompagné d'investisseurs, de représentants d'entreprises françaises. L'enjeu pour la Syrie, reconstruire le pays, explique David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient.
Ahmad al-Sharré, on sait d'où il vient et on ne peut pas effacer son ADN initial islamo-djihadiste. Et effectivement, avec sa prise du pouvoir, il y a aussi la réalité du pouvoir. Il sait qu'il a besoin, pour faire redémarrer son pays, de donner des gages. Après une décennie de guerre civile, un pays en ruine, il y a un intérêt à favoriser sa stabilisation.
Reste aussi la question sécuritaire et le sort des derniers djihadistes français encore présents en Syrie.